반면 역사를 자랑하는 나라인데요.
전주, vous savez, la Corée est un pays qui a une science, qui a une histoire de 5 siècles. Et moi, je peux dire que Jeonju est la ville où nous pouvons voir les caractéristiques de la Corée du Sud traditionnelle qui sont les plus visibles dans notre ville. Donc, si vous pensez que ça coûte beaucoup d'argent pour voyager dans beaucoup de pays et aussi en Corée du Sud, alors vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres villes en Corée. Vous allez juste venir à Jeonju et vous allez découvrir toute la Corée du Sud.
Je suis
très content de pouvoir vous rencontrer. Et aujourd'hui, je vais étudier sur le tabernacle avec vous. À travers le tabernacle, vous allez apprendre le cœur de Dieu. Et vous allez également comprendre exactement comment est-ce que vous allez mener votre vie spirituelle. Et j'espère que ça va vous être utile jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Donc, vous pouvez voir dans la photo qui est à gauche comment les camps sont organisés dans le désert. Et quand vous regardez la photo qui est à droite, vous pouvez voir de haut en fait comment est-ce que les camps d'Israël étaient organisés. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Qu'est-ce que vous y voyez? Ah, si les étudiants ne répondent pas bien, c'est qu'ils n'étudient pas très bien non plus. Le cœur des étudiants doit être toujours ouvert. Donc, puisque vous y êtes assis, vous êtes des étudiants. Et moi, puisque je suis là, je suis enseignant. Alors, les étudiants doivent bien écouter son enseignant, n'est-ce pas? Après, si vous êtes élève de l'école primaire ou les étudiants à l'université, mais vous, vous êtes les élèves de la première année au primaire. Vous êtes en quelle année? En première année. Vous êtes en CP, donc les enfants en CP écoutent bien son enseignant. Ça veut dire qu'ils répondent très très bien. Bonjour à tous. Ah, je vois encore des gens qui ne répondent pas. Ceux qui ont la bouche fermée, c'est qu'ils ont aussi le cœur fermé. Parce que l'apprentissage de la science de Dieu, ce n'est pas par la tête, mais avec le cœur. Il faut avoir le cœur ouvert. Donc, la personne qui n'a pas encore son cœur ouvert, alors ouvrez votre bouche. Et votre cœur sera ouvert grandement. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Lorsque nous voyons l'image qui est à droite, qu'est-ce que vous voyez? Quelle image est-ce que vous pouvez trouver dans cela? Nous pouvons voir la croix, n'est-ce pas? Donc il y avait une image que Dieu il était en train de dessiner alors que les enfants d'Israël étaient encore en voyage dans le désert. C'était la croix. La croix. Lorsque nous voyons comment est-ce que la population israélite était organisée, en bas, en fait, c'est l'Est. C'était Juda, Issachar et Zebulon. Et quand on voit alors au sud, c'est Ruben, Siméon, puis Benjamin, qui est à droite maintenant, puis Il faut garder.
À
l'ouest, vous voyez Kat, Naphtali, Aser. Donc il faut encore tourner, n'est-ce pas? Donc vous regardez maintenant à droite. Donc quels sont les trois restants? Je ne sais pas trop, moi non plus. Quels sont les trois autres tribus qui restent?
Il
y a Ephraim,
Manassé, Benjamin.
Est-ce que c'est Benjamin? Donc à gauche, Benjamin, Ephraim et Gad. Et puis à droite, c'est le reste. Et lorsque nous calculons la population totale, nous pouvons voir qu'ils sont toujours en fait cette forme. Vous pouvez voir qu'on voit en fait la croix est plus longue, n'est-ce pas? Donc c'est Judas, Issachar et Zebulon qui sont en bas. Ils font à peu près.
Ils sont
18 000. Et puis il y a aussi Gad, Zebulon et Ruben. Et puis après, il y a Gad, Aser, Naphtali. Ils font à peu près 100
000.
Et à droite, c'est Ephraim, Manassé et Benjamin. Et ils sont à peu près. Ils ont 150 000. Donc ils sont plus ou moins 150 000. Et puis vous pouvez voir que tout en haut, ils sont les tribus les moins peuplées et qui font à peu près 100 000. C'est ainsi qu'on peut voir l'image en croix. Après que l'homme soit développé, depuis le moment où l'homme était corrompu, Dieu il avait déjà mis en calcul qu'il n'y a que la croix qui peut sauver le peuple corrompu. C'est que lorsqu'on entre dans la croix, il n'y a plus de jugement. C'est-à-dire que dans la croix, il y a le véritable repos.
Lorsque
les enfants d'Israël ont traversé le désert, donc pour voir que Dieu voyait la croix et il les conduisait. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? On va regarder la photo suivante. On peut voir le tabernacle. Donc, à gauche, c'est le tabernacle. Et dans le tabernacle, on peut voir beaucoup d'ustensiles. Donc, lorsque nous voyons comment est-ce qu'ils sont organisés dans le tabernacle, on peut voir qu'il y a aussi la croix. Tout en bas, nous avons l'autel. Et c'est là l'est. Et puis, vous voyez le cuve d'airain. Et puis vous avez la table de pain, il y a le chandelier. Et puis en haut, on a le propitiatoire. Donc ce sont les instruments qui sont dans le tabernacle. Et la cuve d'airain et puis le thé sont dans la cour. La table d'encens, la table de pain et puis le chandelier, ils sont dans le propitiatoire, dans le lieu saint. Et on voyait en fait cette forme. Donc même à l'intérieur, on voit qu'il y a la forme de la croix. Il y a une fois, Dieu a demandé à son disciple qu'est-ce que ça voulait dire la croix, et on vient dire cela dans Matthieu chapitre 16. Jésus avait beaucoup enseigné ses disciples, mais il voulait vérifier. Et il a demandé, alors comment est-ce que les gens m'appellent? Ah, les gens disent que tu es Jean le Baptiste. Et il y a d'autres qui disent que tu es Élie. Et il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Et il y a encore d'autres qui disent que tu es Isaïe. Mais il y en a plusieurs personnes. Donc il y a des gens qui disent que tu es l'un des prophètes. Ah, c'est vrai? Alors vous, comment vous... Que vous dites-vous de moi? Et Pierre, il a dit, ah oui, moi je vais répondre. D'accord, vas-y.
Ah oui,
tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, il était surpris. Simon de Bayona, c'est mon père qui te l'a appris. Donc c'est mon père qui te l'a appris tout à l'heure. Donc, du fait que mon père t'a appris quelque chose, ça c'est la grâce. Parce que le monde de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre par nous-mêmes. C'est ainsi que tu as dit, Simon, on va t'appeler Pierre. Pierre, ça veut dire la pierre en français. Est-ce que vous, en Europe, vous appelez les gens pierre, vraiment les cailloux? En Corée, on appelle des gens parfois pierre. Ce sont des gens qui ne savent pas du tout étudier. Ce sont des gens qui ont une tête comme un caillou, en fait. Ça veut dire qu'ils ont une tête qui ne sert à rien. Ce sont eux qu'on appelle, oh tiens, quelle pierre lui-là. Mais Jésus, il a vu Pierre à Simon, et il a dit, ah tu es Pierre. Alors si c'est les Coréens, en fait c'était les Coréens, alors on allait comprendre que, ah mais tiens, toi tu es bête, tu as un QI qui est très bas. C'est comme ça qu'on peut comprendre chez nous. Mais Jésus, il ne voulait pas dire cela. Ça veut dire que tu as la foi. Tu as la foi qui est solide comme la terre, comme la pierre. Et pourquoi cela? C'est parce que Dieu te l'a donné. Parce que les hommes ne peuvent pas se créer la foi par eux-mêmes. Parce que même la foi, il y a des gens qui ont importé la foi des royaumes de Dieu. Et il y a aussi la foi que l'homme a créée par soi-même. Ou la foi qui est créée par soi-même, en fait, quand il y a des difficultés, ça bouge, en fait, ce n'est pas stable. Mais la foi qu'on a emportée des royaumes de Dieu, ça ne change jamais. C'est ce qu'on appelle Pierre. Et Dieu a dit, ah, je construis mon église sur la pierre et les puissances du diable ne pourront pas le battre. Je te donne les clés du royaume des cieux. Si tu ouvres sur la terre, ce sera ouvert même au ciel. Si tu fermes sur la terre, elles seront fermées au ciel. C'est ici que certains doutent. Ils pensent que Dieu a donné la clé à Pierre. Et c'est vrai, Jésus a donné à Pierre. Mais il n'a pas donné à Pierre en tant qu'humain, mais il a donné à un pratiquant, à un religieux qui est Pierre. C'est une personne qui a emporté la foi de Dieu. C'est pourquoi en fait la clé de Dieu, elle n'est pas au singulier, elle est au pluriel. On parle de plusieurs clés. C'est-à-dire que Dieu il donne la clé des cieux à ceux qui ont la foi de Dieu. Donc, si on reformule ce que Pierre a dit, tu es le Fils et le Fils de Dieu vivant, ça veut dire la croix. Jésus-Christ est venu sur la terre en portant une chair. Cela, c'était pour pouvoir prendre la croix. Alors pourquoi est-ce qu'il devait prendre sa croix? Au temps d'Adam, qui est notre ancêtre, tout le monde est devenu pécheur. Par aucun effort de l'homme ne pouvait se débarrasser du péché. Et Dieu de l'amour, il avait vraiment envie de sauver le monde. Mais il n'y avait aucun homme ne pouvait prévoir ses moyens parce que tout homme était corrompu. Alors Dieu, il a envoyé son propre Fils qui porte la forme de l'homme pour pouvoir nous sauver. Et Jésus, en tant qu'humain, il porte la croix. Pour sa propre cause, lui, il n'avait pas besoin de porter la croix. Mais lui, il a porté sa croix. C'était pour tous les humains qui sont corrompus comme nous. Ah, mais mes étudiants, ils ne savent pas bien répondre du tout. Quand je suis avec les étudiants qui sont les enfants qui sont jeunes, quand je leur donne à manger, ils ouvrent leur bouche. Mais quand je donnais des biscuits, je pense que vous allez faire trop de bruit. Donc il faut que vous me suivez très bien. Amen. Donc dans le cœur de Dieu, Dieu nous a donné ce qu'on appelle le tabernacle. Et réfléchissez. Les enfants d'Israël ont fait l'exode. Et ils sont en train de traverser le désert. Et où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Est-ce qu'ils vont vraiment au désert? Non. Ils partent vers le Canaan, qui est la terre bénie. Donc il y a un grand peuple qui est en train de traverser le désert. Et Dieu, quand il regarde de haut là, il voit la croix dessinée. Ce peuple, ce ne sont pas les humains. Ce ne sont pas les bons, les bien ou ceux qui trouvent bien. Ce sont des gens qui sont plus méchants que nous. Parce que quand ils en ont marre, en fait, ils servaient les idoles et ils n'écoutent même pas Dieu. Donc ils vivaient aussi dans la terre qui était vraiment maudite. Donc ce n'était pas parce qu'eux, ils écoutaient bien et qu'ils étaient gentils, mais c'est seulement que quand Dieu, ils voyaient du haut, là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la croix.
Amen.
Donc c'est à cause, grâce à la croix qu'ils pouvaient vivre même sur la terre qui était maudite. Et ils avaient aussi connu le miracle de créer de l'eau alors qu'il n'y avait pas de l'eau. Et alors que dans le désert, on ne peut pas cultiver, mais ils n'ont jamais eu faim dans le désert. Mais pourquoi? Et les gens qui sont au fond de la salle, ils n'ouvrent pas leur bouche. Donc si vous répondez bien, je vais vous donner le déjeuner, donc ouvrez bien la bouche. Ceux qui sont au fond, répondez. Non, ils ne répondent jamais. Donc, je pense qu'ils ne vont pas manger à midi. Donc, lorsque le Seigneur il voit les enfants d'Israël, il voyait la croix, alors est-ce que la malédiction peut avoir lieu? Est-ce qu'il voit le jugement?
Non.
C'est qu'on est sain et sauf lorsqu'on est dans la croix. Donc c'est un endroit où il n'y a que l'espoir. Mais je ne sais pas, les autres personnes qui ne sont pas là, où est-ce qu'ils vivent s'ils ne vivent pas dans la croix? Ce sont les gens qui sont stupides. Vous devez entrer dans la croix. Alors pourquoi est-ce que Dieu il voulait créer le tabernacle pour le peuple d'Israël qui sont vraiment têtus et qui n'écoutent pas? C'est parce que c'est différent des pensées de l'homme. Les pensées de l'homme sont toujours ainsi. Il faut bien écouter, il faut être gentil, alors on les récompense. Et ceux qui n'écoutent pas et qui sont méchants, on doit les punir. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons mener une vie gentille. Donc faire le bien, c'est ne pas être paresseux et d'être responsable de sa vie. Qu'on soit des occidentaux, des orientaux, qu'on est vieux ou jeune, on a tous cette pensée. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est pas la logique à Dieu. Donc souvent quand nous lisons la Bible, il y a des moments où on comprend ou on ne comprend pas, on est en fait dans cette limite, c'est à cause de cela. Dans le tabernacle, il y a les mesures, que ce soit la longueur, la largeur ou le poids. Et chaque mesure en fait, apporte une signification. Et je ne peux pas parler de tout cela aujourd'hui. Alors, mais pourquoi est-ce que Dieu il a créé le tabernacle dans le peuple qui était si méchant et qui n'écoutait pas? Et ça, c'est ça en fait la pensée de Dieu. Ah mais pourquoi est-ce que Dieu a créé le tabernacle parmi le peuple qui n'écoute pas, qui sont têtus et qui sont méchants? C'est pour dire que Dieu veut toutefois rester avec eux. qui veut demeurer avec le peuple pour toujours. Et même si on se méchant, Dieu veut rester avec nous. Lorsque nous regardons chaque tente des enfants d'Israël, chaque tente avait des problèmes. Dans une famille, il y a de tristesse, il y a des armes, des larmes, pardon. Et il y a des familles qui ont péché et puis qui tremblent de peur. Et lorsque nous entrons dans chaque tente des enfants d'Israël, il y avait ce genre d'obscurité. Et tout comme cela, lorsque nous gardons notre cœur aujourd'hui, alors que nous voulons mener une vie gentille et propre, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas propres dans notre cœur. Par exemple, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais je vais parler à votre place. Même si ça ne vous plaît pas à entendre. Donc, vous allez juste prendre cela comme si je confessais à votre place. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Il y a beaucoup de choses impures. Il y a le mensonge, n'est-ce pas? Le mensonge est en vous. La cupidité, n'est-ce pas? Et vous avez aussi la désobéissance, n'est-ce pas? Et vous êtes jaloux lorsque les voisins ils se trouvent dans meilleures conditions que vous, n'est-ce pas? Donc là, en fait, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de très général. Mais est-ce que vous avez aussi de désirs impurs en vous? C'est surtout les frères, n'est-ce pas? Je pense que les sœurs, non. Je pense que les sœurs, elles sont tellement gentilles, elles ne vivent que de la rosée. Même les sœurs, vous avez les désirs impurs. Ah, mais vous êtes très impurs. Et parfois, vous avez l'envie de tuer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est vrai? Parfois, vous avez envie de tuer vos parents, vos propres parents. Ah non, ça non. Ah tiens, parce que moi, je les avais ce cœur-là. Parce que moi, j'avais trop détesté mes parents. Donc, les personnes que j'ai plus tuées dans le monde, c'était mes parents, dans mon cœur. Et puis, mes frères, il y a des gens que je n'ai pas tués. Ce sont des gens que je ne connais pas. Je n'ai jamais tué quelqu'un que je ne connais pas. Donc ceux que je connais bien, ils ont été tués au moins une fois dans mon cœur. Lorsque Dieu les voit du haut, mais lui-même, lui, il a encore commis des meurtres. Il a tué son père. Il a tué sa mère. Et il s'est tué lui-même. Ah mais tiens, je lui ai donné une nouvelle vie et il est en train de tuer encore. Donc moi, je suis un tel meurtre. J'ai fait un grand meurtre devant Dieu. Mais ceux qui sont là, je pense apparemment qu'ils n'ont pas encore fait le meurtre. Mais ceux qui sont là, je ne vous ai jamais tué pour le moment, à peu près. Mais si vous ne m'écoutez pas, donc vous serez mort dans mon cœur. À vous aussi, vous pouvez me tuer dans votre cœur. Donc, nous sommes ce genre de personnes. Donc, nous allons en fait nous débarrasser de cet homme. Parce que nous allons recevoir le jugement devant Dieu. Et ceux qui ne peuvent pas, en fait, admis par Dieu, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui est important. Même si je dis que, attends, tu as une très belle vie spirituelle, mais quand Dieu dit non, c'est pas vrai, c'est que vous ne pouvez jamais entrer dans les royaumes de Dieu. Donc même si vous me regardez, quand vous me regardez, vous souriez, vous me répondez. Mais si cela est aussi la même chose devant Dieu, vous devez repentir. Dieu, pardonne-moi d'avoir tué mes parents. Non, c'est pas ce genre de repentance. Même si vous faites la repentance comme ça tous les jours, ce sera la même chose que de vivre dans le cercle infernal. Et le tabernacle nous montre cela. Nous allons voir l'image suivante. Donc là, c'est le tabernacle. Donc nous l'avons regardé de manière diagonale. Nous allons considérer que nous l'avons vu de côté. Donc nous avons vu de côté et puis à votre niveau d'œil. Alors qu'est-ce que vous allez voir ? En haut, vous allez voir un peu de couleurs qui sont de cendre. Et en bas, vous allez voir de tissu blanc. Est-ce que c'est joli à voir? Non, pas du tout. Donc, c'est une scène que nous voyons devant nous. C'est ce que nous voyons. Mais à quoi cela nous regarde? Mais cette forme aussi, c'est la forme de Jésus. Jésus, il n'est pas aussi beau que vous. Je pense qu'il va peut-être, il serait peut-être comparable à un oriental. Parce que les occidentaux, vous êtes très très beaux, vous êtes de grande taille, vous avez des yeux gros, vous avez des mains, des grandes mains. J'ai pris un avion. Et on avait atterri et je me suis levée. Et moi, je me trouvais enfermée dans une forêt. Je me disais, mais tiens, pourquoi les gens, ils sont très grands comme ça? Ils sont beaux. Ils ont aussi une peau très blanche. Ils ont des yeux très grands. Vous avez vraiment des yeux de taureau. Et vous avez aussi une double paupière qui est très belle. Donc, il n'y a aucun défaut sur votre visage. Donc, quand je me compare à vous, je me dis, pourquoi moi, est-ce que je n'ai pas une peau qui est soit foncée ou claire? Je suis au milieu comme ça. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas grand ni petit comme ça? Même moi, en fait, je me considère que je ne suis pas bien définie. Je ne suis pas une personne qui est bien présentable. Et je me disais, ah si je vais en Europe, est-ce que les gens ils vont me considérer? Et il n'y avait aucune personne qui me regardait. Il est dit que Jésus est comme un arbre qui a grandi sur la terre sèche, qui est... ça veut dire qu'il est très faible, c'est quand il avance un pas, donc le pied qui est derrière, il peut trébucher à cause de cela en fait. Donc il a dit que Jésus, il est faible et qu'il n'est pas beau. Il n'y avait aucune chose d'admirable chez lui. Mais tout comme vous méprisez un peu les orientaux, donc Jésus aussi, il a été beaucoup méprisé. Il n'y avait aucune chose à admirer chez Jésus. Donc là, on ne voit que comment il est entouré. Donc la hauteur fait de 2,50 m. Donc ceux qui sont très grands, vous faites à peu près 2 mètres, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui font 2,50 m ici? Je pense que ce serait le cas peut-être pour les joueurs de basket. Est-ce qu'il y a des gens qui font 3 mètres? Il n'y a pas 3 mètres, n'est-ce pas? Mais là, c'est 2,50 m. Donc, quand on regarde dehors, on ne peut pas voir à l'intérieur. Et nous allons imaginer les enfants d'Israël. Est-ce qu'ils vont laver les habits? Ou est-ce qu'ils vont se laver très souvent? Je pense que même se laver une fois, ce serait difficile. Alors, ces habits seraient sales, n'est-ce pas? Et ils vont sentir mauvais aussi. Mais Dieu a fait en de sorte que même si on le sente longtemps, on ne ressent plus. Par exemple, même si vous sentez une odeur qui est mauvaise, mais quand vous le sentez continuellement, vous n'allez plus le sentir. C'est que ma copine porte, c'est que mon ami porte des habits sales et moi aussi, donc je sens plus en fait l'odeur en fait qui pue. Donc lorsqu'il s'approche du tabernacle, donc le tabernacle est si blanc et ils peuvent voir en fait la couleur de l'habit qu'il porte. C'est-à-dire que ça se révèle. Mais comment il se révèle? Il se révèle en tant que sale. Ils sont sales de la tête jusqu'aux pieds. Donc, c'est, quand ils se comparent, il n'y avait aucune chose à comparer, à admirer chez eux, parce qu'ils sont très très sales. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir en ce moment? Ils découvrent qu'ils sont sales. Ils découvrent qu'ils sont débiles. Et ils découvrent qu'ils ne sont pas faibles pour quelques points. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont envie de se laver. Et ils ont envie de enlever leurs habits, se laver, n'est-ce pas? Donc la couleur blanche. Lorsque les enfants d'Israël qui portent des habits sales voient ce voile, ils vont dire ne pas s'approcher. Si tu t'approches, tu vas mourir. Donc cela fait image d'une défense. Et à l'intérieur de cela, on montre que c'est un endroit où les gens sales ne peuvent pas s'approcher. Donc les enfants d'Israël savaient que c'est un endroit où demeurait Dieu. Donc ils pouvaient se projeter et voir leur image. Donc ils devaient saisir de la peur. Donc ils vont se dire que ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce qu'ils sont sales juste une partie ou ils sont sales totalement et entièrement? Donc c'est ce qu'on doit comprendre exactement. Quand les gens demandent, est-ce que tu as repenti? Ah oui, j'ai repenti. Tu as repenti? Ah bah, je repens tous les jours. Quand j'entends parler de la repentance de tous les jours, et moi je me dis que cette personne elle ne comprend pas bien qu'est-ce que c'est la repentance. Parce que moi, je ne connaissais pas bien la Bible. Parce que ma famille était bouddhiste. Donc jusqu'au lycée, moi aussi j'étais avec ma famille bouddhiste. J'avais entendu parler du christianisme. Ça ne me regardait pas trop haut en ce moment. Quand je voyais des gens qui partaient à l'église, je le trouvais bizarre. Et je me disais, mais tiens, nous aussi, ici en Asie, nous avons une très belle religion, mais pourquoi est-ce qu'ils croient à la religion des Occidentaux? Et c'est comme ça que je pensais. Et je ne peux pas tout raconter, mais un jour, je me suis trouvée dans l'église. J'étais aussi chef des étudiants. J'ai été le président des jeunes, donc c'est comme ça que je grandissais dans l'église à peu près 10 ans. Mais je commençais à avoir des hésitations dans mon cœur. Parce que c'était la seule raison pour laquelle je suis allée à l'église, c'était pour être pur. Parce que j'avais beaucoup de péchés, mais le Bouddha ne pouvait pas effacer mes péchés. Le Bouddha, il demandait toujours de l'argent. Et je me disais que, ah tiens, le Bouddha, il n'a pas d'argent. Et j'avais appris que Jésus, il a effacé le péché à la croix. Donc, je suis allée à l'église. J'ai fréquenté l'église pendant 10 ans. J'ai eu plus de péchés qu'avant. Sur le péché que je commettais tous les jours, parfois je ne payais pas la dîme, donc ça faisait un péché de plus. Parce que dans le monde, quand j'étais dans le monde, on ne comptait pas le péché que je commettais dans mon cœur. Mais quand je suis allée à l'église, on comptait aussi le péché que je commettais même à l'intérieur de mon cœur. Et il est dit que si je haïssais dans mon cœur, alors j'ai commis le meurtre. Donc que si je convoite une femme dans mon cœur, c'est de commettre l'adultère. Donc alors que moi j'étais juste assis, mais je pouvais commettre l'adultère et je pouvais aussi adorer l'idole. Et moi, je repentais tous les jours en pleurant. Et le Seigneur qui voit le cœur, voyait mon cœur. Ce n'était pas un petit péché qui était dans mon cœur, mais moi, j'aurais dit que c'était des tas de péchés qui se trouvaient dans mon cœur. Et je ne savais pas comment effacer le péché. Parce que pendant tout le temps que j'étais à l'église, je péchais, je demandais la repentance, je commettais le péché et puis je faisais la repentance. Pendant un jour après 10 années, j'ai rencontré un prêtre. J'ai rencontré un croyant de catholique et je lui ai demandé comment est-ce que lui, il pratiquait. Je lui ai demandé, est-ce que tu ne pêches pas? Et il disait qu'il avait fait une confession au prêtre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu fais confession au prêtre? Alors tes péchés, ils sont effacés? Alors, sinon tu pêches encore? Ou après ça, tu vas encore confesser, n'est-ce pas? Tu pêches, après tu confesses. Alors, il n'y a pas de différence avec le protestantisme. Et chez les bouddhistes, ils pêchent. Alors, ils vont frapper leur instrument en bois. Et puis, ils vont réciter le chant en bouddhiste. Ils pêchent et puis ils chantent. Ils pêchent et ils chantent. Ils pêchent et ils confessent. Ils pêchent et confessent. Ils pêchent et repentent. Donc, même ceux qui ne croient pas, ils ont la conscience. Donc, quand ils pêchent, ils sont condamnés par leur propre conscience. Et on se dit, je ne vais plus commettre ce péché-là. Et moi, j'ai écrit un journal. Je me disais, je ne vais plus commettre le même péché. Ceux qui n'y croient pas, donc ils vont commettre un péché, après ils disent que je ne vais plus le faire, ils commettent le péché et puis ils reviennent pour dire qu'ils ne vont plus commettre le péché. En fait, on fait toujours ce va-et-vient. Alors je me disais, ah tiens, alors on n'a pas vraiment le besoin de croire en Jésus. C'était le cœur que moi j'avais. Et c'est ainsi que j'avais décidé de quitter l'église. Et j'ai essayé de ne pas pécher. Dans ce cas, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église? Parce que je peux ne pas aller à l'église et j'essaie de ne pas pécher, c'est la même chose. Et un jour, j'ai rencontré mon cousin qui était un pasteur. Et c'était un pasteur qui était connu dans l'armée. Parce qu'il a été diplômé de l'école des officiers de l'armée de l'air, et puis il est devenu pasteur. Normalement, les gens qui sont diplômés de l'école des officiers de l'armée de l'air, ils deviennent pilotes, mais lui, il n'est pas devenu pilote. Et il est devenu pasteur, et il n'y a que deux personnes qui sont devenues. Donc il n'y a que deux personnes en fait qui sont pasteurs parmi les pilotes, donc pasteur Tan et pasteur Liu, qui est mon cousin. Et en ce moment, moi j'étais à l'école théologique et je lui avais demandé, frère. Donc maintenant, j'étudie à l'école théologique des méthodistes. Et comme tu le sais, nous, notre famille, sont très pauvres. Et tu sais, je me trouve pas, j'ai pas de moyens pour continuer mes études. Mais lorsque j'ai eu des difficultés de mort, en fait, j'ai commencé à chercher Dieu. Je suis allée à l'école théologique pour rencontrer Dieu. Mais quand je suis allée à l'école théologique, j'ai eu plus de péchés et j'ai eu plus de questions. Je pense que c'est la religion elle-même qui m'empêche de croire en Jésus. Il n'y a qu'une seule Bible et un seul Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de branches dans l'Église? Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de corruption dans le christianisme? Qu'est-ce que c'est le méthodisme? Et qu'est-ce que c'est les Donc, en fait, toutes ces nominations, je me suis posé la question. Et puis, mon cousin, il m'a expliqué. Il a dit, l'église méthodiste est formée comme ça. Et l'église de Toussaint est formée comme ça. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas bien comme ce que tu vois. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Oui, c'est bien ça. Et on veut quand même. Il y aurait certains qui sont les véritables pasteurs, mais moi, je ne peux pas savoir qui était le véritable pasteur. Parce que moi, ma tête est comme une roque. Et moi, je ne pouvais pas lire tout seul la Bible et comprendre la Bible. Parce que je lis un chapitre et j'oublie les chapitres et puis je passe au chapitre. Et quand je finis de lire un chapitre, que je dois passer au chapitre suivant, mais je ne comprenais pas du tout. Mais c'était la répétition de cette situation. C'était toujours la même situation qui s'est répétée. Alors même si je continue à lire, ça ne servait à rien. C'était juste que du noir sur le blanc. Et combien de fois je dois lire la Bible pour comprendre l'histoire et puis la signification? Donc moi, mon loisir, c'est de ne pas étudier. Donc moi, tout seul, ça n'était pas possible. Donc mon cousin m'avait présenté une personne. Et il m'a dit, va rencontrer Pasteur Ousu Park qui est à Daegu. Je ne peux pas tout expliquer, mais de toute façon, je suis descendue à Daegu. J'ai rencontré Pasteur Ousu Park. Et c'est là que j'ai écouté l'évangile. Et il a sorti un bapiram. Et il a dessiné la croix. Et il m'a demandé, Est-ce que vous êtes une fois posé des questions à cause du péché? Le péché, mais tiens, on n'en parlait même pas. Parce que ma vie, c'était que une répétition de péché, péché, repentance, péché, repentance, péché, repentance. Et moi, je ne sais pas jusqu'à combien de temps est-ce que je dois continuer à croire Jésus de cette manière. Alors lui, il a sorti un papier, il a dessiné la croix. Et sur la croix, il a dessiné un rond. Et il a écrit le péché du monde. Il disait que Jésus est mort sur la croix avec tous mes péchés et il a payé ma rançon. Et que nos péchés sont effacés blanchement. Et qu'il a effacé tous nos péchés. Et je lui ai dit, ah oui, c'est vrai. C'est bien vrai ça. Mais moi j'ai une question.
Pasteur.
Quand je vous écoute, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui ne savent pas que Jésus a effacé le péché du monde. Parce que je suis une personne qui a fait l'église, qui a été à l'église, donc je comprends cela. Mais je suis sûr. Je vous salue et que je sors de cette salle, je vais encore pécher. Parce que moi, je suis une usine de péché. Et qu'est-ce qui va se passer si je péchais encore? Si c'était un t-shirt qui était sale, alors je peux laver et reporter, laver et porter. Mais on dit que Jésus viendra comme un voleur et on dit qu'on ne doit pas avoir du tout le péché. Alors même si j'ai passé le péché ici aujourd'hui, mais à la sortie, je vais encore pécher. Alors, ce sera comme le t-shirt qui est sali. Est-ce que ce ne sera pas la même chose que d'avoir une tache sale sur moi alors que je suis encore effacé le péché? Moi, je repens tous les soirs. Parce que mon pasteur il m'a dit qu'on peut effacer le péché qu'en faisant la repentance. Donc, puisque moi, je repens la nuit, alors Jésus s'est venu le matin. Est-ce que je ne veux pas aller en enfer à cause du péché que moi j'ai commis? Alors, ce pasteur, il a ouvert Hébreu. Il a sorti Hébreu chapitre 9, verset 12. Et il m'a dit de lire. J'ai lu. Donc ce ne sera pas le sang du bouc et de taureau, du bœuf, mais par son propre sang. Il a accompli la rédemption éternelle. Et en ce moment, je ne comprenais pas bien en fait, de quoi il s'agissait le sang du bouc et du bœuf. Et il a dit par son propre sang. Et je me suis dit, ah, ça c'est le sang de Jésus. Et juste après cela, il a obtenu la rédemption éternelle. Et je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire la rédemption éternelle? Et il disait, regardez, dans la Bible, il est écrit qu'il a effacé le péché pour toujours. Ah d'accord, donc la rédemption, ça veut dire effacer le péché. C'est que Jésus, il a effacé le péché pour toujours. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu la foi. Ah, Jésus a pris tous nos péchés pour toujours. Et je peux voir que je le croyais dans mon cœur. Et jusqu'à présent, quand je fréquentais l'église, j'avais beaucoup essayé de croire par moi-même. Je disais, ah oui, je crois, je crois. Oh Seigneur, j'y crois. Mais lorsque j'ai réalisé, j'ai analysé ce que je disais avant, je peux voir qu'en fait, je faisais l'expression de mon cœur qui disait, ah non, je ne peux pas y croire, mais je veux croire. C'est vraiment quelque chose d'étrange, parce que je pouvais croire finalement à cela dans mon cœur. Et je me disais que je pouvais aller au paradis. Que je peux aller au paradis même si je meurs aujourd'hui. Nous allons voir le verset. Donc ce sont les
piliers.
Et puis, d'abord, on peut voir les
piliers.
Et quand on voit la tête, on peut voir que c'est blanc, n'est-ce pas? Donc sur le piquet, vous pouvez voir également des nœuds. Et puis tout en haut, et en bas, vous avez aussi le socle qui est en airain. Et à gauche, puisque tout seul, il n'a pas de force. Donc dans les anneaux, donc, on va attacher les filets pour pouvoir stabiliser le piquet. Et vous pouvez également voir un bar qui passe à côté. Là, on le fait passer par le nœud, par l'anneau. Donc il y a de l'argent, il y a des reins, et il y a également le fil blanc. Donc ceux qui souffraient du péché, Dieu a donné le lin blanc ou de l'argent blanc qui brille dans le feu. Et quand on voit également l'airain qui est au pied, lorsque nous écoutons, qu'est-ce que ça veut dire l'argent, l'or, l'airain et le lin blanc? Alors, comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser de ce péché? Et comment entrer dans le lieu qui est très saint en Jésus? Et tout comme la vie que vous n'avez jamais pu laver, même tout comme votre corps que vous n'avez pas lavé depuis longtemps, et votre image en fait qui est sale et qui pue, vous voulez vous laver pour vous laver proprement, et vous avez envie de laver vos habits proprement. Et dans le désert, comment est-ce que vous pouvez vous laver et laver vos habits? Et cela ne peut se faire que par la grâce de Dieu. Si ton cœur n'est pas blanc, tu ne peux pas t'échapper du jugement de Dieu. Pour effacer le péché de ton cœur proprement, il n'y a que la grâce à demander de Dieu. Il n'y a rien qui peut être fait par les efforts de l'homme. Donc, la grâce de pouvoir saisir la miséricorde que tu nous offres, c'est ce qui peut purifier notre corps et notre esprit. C'est ainsi que Dieu nous fait échapper du jugement. Comme la tête qui est faite en argent et le lin blanc. Et l'airain signifie cela. Donc lorsque nous regardons la signification de chaque chose dans la Bible nous montre non seulement comment recevoir le salut, mais nous montre également le chemin, comment mener la vie spirituelle. Il nous fait voir le monde de Dieu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, je vais continuer sur le même thème.